bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver cette année encore avec Radio Campus Tours sur la Vegan Place. Comme l'année dernière, nous allons vous proposer tout au long de la journée un programme de table ronde enregistré en public sur ce plateau radio. Vous pouvez trouver le programme des tables rondes et des invités sur des affiches qui sont disséminées tout au long du boulevard Orteloup. Donc les tables rondes enregistrées aujourd'hui seront diffusées par la suite sur Radio Campus Tours, à la fois sur les ondes, fréquence 99.5 pour les Tourangeaux, mais aussi en web radio, avant d'être disponible en podcast sur le site de la radio, radiocampustours.com. Tout ça, ce sera dans les semaines qui suivront la Vegan Place. Et pour connaître les dates de diffusion, il faudra surveiller les réseaux sociaux de la Vegan Place Tours et ceux de Radio Campus Tours. Alors les deux premières tables rondes de la journée sont consacrées au Prix Maya 2024. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Prix Maya, c'est un prix littéraire lancé à Tours en 2019 par des militantes et militants tourangeaux qui sont aussi des membres de l'équipe d'organisation de la Vegan Place de Tours. Alors ce Prix Maya, dont le nom rend hommage à une éléphante victime d'une longue exploitation dans les cirques, récompense des ouvrages de fiction qui font avancer la cause animale dans trois catégories: romans, bandes dessinées et livres jeunesse. Alors cette année, nous souhaitions donner la parole aux autrices et illustratrices sélectionnées pour le Prix Maya 2024 qui nous font le plaisir de leur présence aujourd'hui. Et vous pouvez d'ailleurs les rencontrer une grande partie de la journée sur le village des autrices et auteurs, voilà, sur la partie du boulevard Orteloup entre la mairie et du coup la place de la gare. Alors à l'heure où le jury du prix est en train de délibérer, c'est en ce moment même, juste à côté, nous recevons pour cette première table ronde deux femmes, puisqu'on avait Émilie Van Volsem qui est illustratrice et qui devait être présente parmi nous et qui malheureusement a dû annuler. Elle sera probablement là cet après-midi parce qu'elle va animer un atelier dessin sur l'espace enfant qui se trouve un peu plus loin. Donc deux femmes sélectionnées pour le Prix Maya dans la catégorie livre jeunesse. Donc il y a Agatha Liévin-Bazin qui est à gauche ici, et puis Dominique Mémy, voilà, à sa gauche.
Bonjour.
Bonjour à toutes les deux. Alors pour faire une petite présentation, donc Agatha Liévin-Bazin, vous êtes l'autrice avec Charlotte Duranton et Magali Atiokbe du livre Que d'émotions.
Tout à fait.
Publié chez Milan. C'est ce livre-là. On va vous le faire passer un petit peu si vous voulez le feuilleter. Et Dominique Mémy, vous êtes l'autrice du livre Le Gang d'Arlette,
oui.
Voilà, illustré par Anna Griot et publié chez Dadoclem.
Voilà.
Donc bah, on va commencer peut-être avec vous, Agatha Liévin-Bazin, si vous voulez bien.
Comme vous voulez.
Très bien, donc on disait que vous étiez donc l'autrice du livre Que d'émotions, publié chez Milan. Donc avant de parler de ce livre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, qui est plutôt un parcours scientifique ?
Tout à fait.
Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez initialement docteur en éthologie. Et au passage, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que signifie le mot éthologie et que fait une éthologue ?
Avec grand plaisir. Alors l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal dans toute sa diversité, hein, parce qu'on peut étudier aussi bien le comportement alimentaire, les parades, l'orientation, la résolution de problèmes, chez l'oursin, chez la sauterelle, le chimpanzé, l'humain, le poisson-clown, enfin c'est une discipline très large. Moi, par le passé, j'ai beaucoup travaillé avec des oiseaux et pendant ma thèse, je travaillais sur l'importance des liens sociaux. À quel point est-ce que la relation nouée entre les individus va les aider à s'entraider, à mieux se comprendre, par exemple, pour se venir en aide et pour étudier tout ce qu'on appelle l'empathie, qui est la capacité à comprendre les émotions des autres et des fois adapter son comportement pour voilà, venir en aide ou améliorer le bien-être de l'autre. Et je travaillais chez des perruches calopsites, qui sont des toutes petite perruche avec des joues rouges et une crête sur la tête, et des choucas des tours qui sont des petits corvidés, donc des petits oiseaux de la famille des corbeaux qu'on trouve souvent dans nos villes. Choucas des tours, ils sont souvent sur les clochers des églises, etc. Et après ma thèse, en fait, j'ai choisi de quitter le monde académique, qui est un monde des fois un petit peu ardu, pour devenir vulgarisatrice scientifique. Donc maintenant, mon activité, c'est ça, c'est d'écrire des livres, de rencontrer des gens en salon, en conférence, et de parler du comportement des animaux. Et ma co-autrice, Charlotte Duranton, a le même parcours que moi, mais elle a travaillé sur les chiens domestiques. Mais elle a aussi une thèse en éthologie.
Même question pour vous. Pardon. Excuse-moi. Oui, pardon. Et donc, ce livre en particulier, qui n'est sûrement pas votre premier livre.
Non, mais c'est parmi mes premiers, parce que ça fait pas si longtemps que ça. En fait, j'ai participé à plusieurs livres collectifs.
Oui.
Il y en a un qui s'appelle La science à contre-pied. On était plus de 35 auteurs dedans. Donc, c'était un livre un peu anniversaire pour les 10 ans du Café des sciences, qui est une association de vulgarisateur et vulgarisatrice francophone. J'ai participé aussi à un bouquin qui s'appelle « Les intelligences animales » qui est coordonné par Yolaine Delabigne, où pareil, il y avait une 10-12 personnes. Et avant celui-là, j'ai fait un livre toute seule qui s'appelle « Société animale », qui était un travail de commande des éditions Circonflexes. Mais ensuite est venu Code Émotion, donc c'est parmi mes premières productions où on était moins, on était en plus petit comité. Ouais.
Et justement, donc, ce livre-là en particulier, comment est né le projet ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté Julie Delat, qui est notre éditrice chez Milan. Et à la base, avec Charlotte, on avait un tout autre projet. On voulait proposer un guide pratique pour apprendre aux enfants à observer le comportement des animaux, une sorte de guide pratique de l'apprenti éthologue. Et bon, Julie était un peu plus réservée, elle s'est dit oui, pourquoi pas, mais bon. Et par contre, c'est elle qui nous a dit, par contre, un livre sur les émotions des animaux, on n'en a pas. C'est vrai qu'il y a plein de livres sur les émotions, mais qui aident les enfants à découvrir leurs propres émotions. Alors, l'humain est un animal comme les autres, mais nous, on trouvait ça important et assez militant de se dire, ben, c'est important d'apprendre aux enfants à reconnaître aussi les émotions de leur chat, de leur chien, mais aussi des autres animaux qui les entourent, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les poissons ont des émotions et on peut les identifier assez facilement en regardant le changement de coloration de leurs écailles ou ce genre de choses. Donc on s'est dit, bah, on va construire un livre pour essayer de sensibiliser à mieux comprendre les émotions des autres animaux.
Quelles ont été vos sources un petit peu pour construire ce livre-là ? Est-ce que vous êtes basé aussi sur vos propres travaux d'éthologue ?
Alors, un tout petit peu, oui, sur les questions d'empathie. C'est vrai qu'à la fin, il y a une partie sur l'empathie. Ça, pour le coup, c'était ma bibliothèse. Charlotte, elle avait pas mal de choses sur ce qu'elle a travaillé, sur à quel point les chiens domestiques se synchronisent sur leur humain. Parce qu'en fait, bah, voilà, les chiens, ils sont capables d'adopter le même rythme que leur humain. Donc oui, on s'est pas mal basé sur nos corpus respectifs. Et après, bah, y a pas mal d'études assez récentes. En ce moment, en éthologie, il y a quand même tout un champ d'études qui s'est ouvert sur comment comprendre de manière non-invasive, donc sans faire mal à l'animal, sans prise de sang, sans tout ça, comment analyser les comportements. Il y a une étude qui a fait le buzz, qui a déjà 15-20 ans, sur par exemple voir le niveau de stress d'une vache selon la quantité de blanc de son œil. Parce que les vaches, quand elles sont stressées, elles ouvrent l'œil plus grand. Et juste en regardant à quel point on voit le blanc de leurs yeux, on sait à quel point elles sont stressées. Là, il y a une étude qui est sortie il y a 2 mois qui montre que les poules rougissent. Elles ont la peau autour de leur visage qui rougit si elles sont plus ou moins stressées. Et en fait, avec ces nouvelles mesures, bah, on l'espère, on peut un peu mieux comprendre les autres animaux et s'assurer de leur bien-être.
Et justement, le livre est parcouru, disséminé de plein d'exemples justement pour apprendre à reconnaître les émotions des animaux. On est même testé à la fin du livre, après avoir une présentation. On est testé et c'est super dur. Moi, je pense que j'ai jamais réussi de tous les tests. C'est super difficile. Et pour autant, ce livre décrit vraiment de nombreuses émotions. Dont les émotions principales que vous décrivez, les 6 émotions principales, et puis d'autres émotions un peu plus complexes, parfois qui sont des associations d'émotions ensemble. Je passe à la prochaine question, puisque vous allez
éventuellement, parce que oui, Merlin, toi tu parlais des émotions, est-ce que vous pouviez peut-être donner aux auditeurs et auditrices des exemples un peu d'émotions que vous abordez dans le livre ?
Oui, complètement. Alors les émotions... Chez les êtres humains, on considère qu'il y a les émotions primaires qui sont universelles. C'est en partie un psychologue américain qui s'appelle Paul Ekman qui a inspiré la série The Mentalist. Il existe pour de vrai, ce monsieur. En fait, il a travaillé sur les micro-mouvements des musculaires quand il y a des expressions et à partir de là, de catégoriser les émotions. Ces 6 émotions principales, alors que je ne les oublie pas, il y a la colère, la tristesse, la joie, la surprise, le dégoût et, chaque fois j'oublie, la peur. Je crois que c'est, je l'ai pas oublié, c'est ça. Donc les 6 principales. Et ce monsieur s'est rendu compte qu'elles étaient universelles. C'est-à-dire qu'il est allé voir des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui n'avaient pas du tout vécu en dehors de leur communauté. Et c'était les mêmes expressions exprimées dans les mêmes contextes. Et on s'est rendu compte que les autres animaux, même des animaux assez éloignés de nous, exprimaient ces émotions-là. Donc voilà, la peur, c'est souvent celle qui est la plus facile à caractériser, même chez les autres animaux. Par exemple, un chat ou un chien, un chat, il va se mettre souvent à souffler, les yeux grands ouverts, les oreilles rabattues. Enfin, il y a des comportements assez faciles à identifier. La joie, c'est plus subtil. Malheureusement, c'est pour ça aussi qu'on a mis plus de temps à le mesurer d'un point de vue expérimental, parce que c'est en effet plus compliqué à mesurer. Mais par exemple, dans les comportements de jeu, là, il y a une étude aussi qui est sortie il y a très peu de temps qui montre que les bourdons jouent à la balle. C'est-à-dire que quand on leur laisse la possibilité, sans récompense, eh bien, ils poussent des balles, ils jouent avec, etc. Alors pourtant, chez un insecte, on va se dire que c'est compliqué de mesurer une émotion, mais il faut savoir leur poser les bonnes questions, donc ça reste possible. Et après, d'autres émotions chez les humains, c'est ce qu'on appelle les émotions secondaires, et elles sont apprises culturellement. Par exemple, ça va être la honte, la culpabilité, mais des fois, c'est des mélanges de plusieurs émotions principales entre elles, donc c'est plus compliqué à caractériser, et selon les scientifiques, bah, tout le monde n'est pas d'accord sur ces émotions secondaires. Donc non, c'est vraiment beaucoup focalisé sur ces émotions principales.
Voilà. Au sujet de la culpabilité, justement, votre ouvrage démonte une idée reçue. Une idée reçue qu'on peut avoir pour les chiens domestiques. Vous expliquez que les chiens ne sont pas capables de savoir s'ils ont fait une bêtise ou non. Ils sont capables de comprendre qu'ils se font gronder et donc ils vont adopter des expressions, un comportement ou même une expression faciale pour faire en sorte d'être moins grondés par leur maître. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont compris qu'ils avaient fait une bêtise ou qu'ils s'étaient mal comportés.
Bah c'est ça, il y a ce truc de on rentre, le canapé a été mangé par Médor, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, souvent les gens disent il sait qu'il a fait une bêtise parce qu'il a cette attitude. Alors c'est de la radio, vous n'allez pas voir, mais où il y a vraiment les sourcils qui sont relevés comme ça et puis ses grands yeux tristes. Et le chien fait une attitude un peu comme s'il se sentait coupable. Et en fait, il y a une scientifique, c'est Alexandra Horowitz, qui a testé ça, où en fait, le dispositif est un petit peu compliqué à résumer, mais en gros, elle a testé des chiens, et ils avaient une instruction qui était de ne pas manger une récompense que leur humain leur donnait. L'humain partait, et les scientifiques soit leur donnaient la récompense, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas suivi la règle, soit ils ne l'avaient pas mangée. Et les scientifiques mentaient à l'humain quand il revenait. C'est-à-dire que des fois, ils disaient « Ah bah, votre chien, il a pas suivi la règle », alors que le chien, des fois, avait obéi. Et le chien se faisait gronder, alors qu'il avait suivi ce qu'on lui avait demandé. Et tous les chiens, en fait, coupables ou non, faisaient cette expression coupable. Et en fait, c'est ça. C'est que cette expression-là, le chien l'adopte. C'est en fait, c'est un signal d'apaisement. C'est un peu un truc de « Ah, je vois bien que t'es pas content, mais s'il te plaît, arrête !» Et en fait, c'est sa manière d'apaiser les choses avec l'humain qui le gronde. Mais c'est pas pour autant qu'il fait le lien avec... Alors, ça veut pas dire qu'ils sont incapables de comprendre qu'ils ont fait une bêtise, mais en tout cas, cette expression faciale, c'est pas de la culpabilité au sens auquel nous, on l'entend en tant qu'être humain.
On dit souvent que le rire est le propre de l'homme. Je crois que vous parlez aussi d'animaux qui peuvent
rigolent.
Rire.
Complètement. Peuvent rigoler. Ouais. Complètement. Alors le rire, c'est un truc qu'on trouve chez la majorité des grands singes, même tous, si je ne dis pas de bêtises. Et on s'est rendu compte que c'était dans un contexte de jeu et il y a pas mal de similitudes avec notre rire à nous. C'est-à-dire qu'ils font des expulsions d'air comme ça qui ressemblent à nos rires. Donc ça veut dire que ça a été sélectionné chez les grands singes et que le rire existe depuis longtemps. Mais il y a des animaux assez différents de nous, comme les rats, qui rigolent aussi. Ça avait un peu défrayé la chronique, ça c'est des études qui datent de début des années 90, menées entre autres par Jacques Panksepp. Et ce monsieur-là, en fait, il a chatouillé des rats, et en fait, il s'est rendu compte qu'ils émettaient des ultrasons, que nous, on ne peut pas entendre sans équipement, mais qui sont l'équivalent du rire. Et en fait, il y a des vidéos sur Internet, c'est très mignon, donc il leur gratouille. Alors, on pourrait se dire, bah, il le torture, pauvre rat, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, le rat, il suit la main pour avoir d'autres gratouilles, donc il en demande de cette interaction-là, et en effet, les rats rigolent.
Alors,
merci. Donc c'est un livre où il s'agit de décrire les émotions des animaux, et donc de les illustrer, ce qui n'est pas forcément quelque chose de simple. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des illustrations dans ce livre, et aussi de la construction du livre tel qu'il est fait, avec ses petits rajouts, ses petits rabats, pour mettre en scène, justement, illustrer ces expressions des animaux?
Alors, les illustrations sont de Magali Atiogbe, et il faut lui rendre hommage, parce qu'avec ma collègue, on a été un peu tatillonne, parce qu'en effet, des fois, les émotions sont assez subtiles. Par exemple, sur la couverture, on voit un cheval cabré, et je me souviens qu'on l'avait un petit peu embêté, on lui a demandé de refaire, parce que il fallait bien que l'œil soit bien ouvert, parce qu'un cheval qui a peur, on voit bien son œil, etc. Donc nous, en fait, on lui a fourni la documentation, les photos de référence, et on a fait des allers-retours. Alors je m'excuse par avance, Magali, si tu nous écoutes, si on t'a beaucoup embêté, mais vu que c'était un sujet un peu précis, alors l'illustration est un peu stylisée, hein, on reconnaît bien le style de Magali, mais c'était assez important pour nous que les attitudes, les postures soient ressemblantes à ce qu'on voit dans la réalité, quoi. Mais c'est compliqué, hein. Par exemple, je pense à la page sur le dégoût, par exemple, où on voit un chat qui, peut-être que vous avez déjà testé, hein, quand ils sentent une odeur forte, ils font une espèce de grimace comme ça, avec la bouche ouverte, et ou des chiens, etc. Et d'un animal à l'autre, l'attitude peut changer, parce que voilà, tout comme nous, il y a des personnalités, les animaux réagissent pas de la même façon quand ils sont présentés. Et en effet, donc, le livre est construit donc, émotion par émotion, et il y a des flaps, donc des volets papier que l'on peut bouger pour parfois découvrir. Parce qu'il y a des fois où on pose la question de voilà, un chat qui bouge la queue, qu'est-ce qui se passe juste après ? Un chien qui bouge la queue, qu'est-ce qui se passe juste après ? Donc comme ça, on peut activer ces différents volets pour voir ce qui se passe.
C'est un livre très interactif pour les enfants. C'est
complètement.
Et est-ce que vous avez eu un retour un petit peu de comment les enfants ils réagissent justement par rapport à ce livre ? Est-ce qu'ils en comprennent ? Est-ce qu'ils les interrogent ?
Eh bien, pas trop. C'est un peu notre drame quand on est auteur-autrice, à part des fois quand on va en médiathèque ou en librairie, qu'on rencontre des enfants qui nous disent s'ils ont aimé ou non le livre, bah, on n'a pas énormément de retours. Donc, en plus, ce livre-là, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le présenter. Il est déjà un petit peu ancien, il est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2021 ou 2022, je ne sais plus.
Je n'ai pas la date.
Je n'ai plus non plus, j'ai oublié, mais du coup, j'ai pas eu beaucoup. J'ai juste fait une présentation dans une librairie à Roubaix, la librairie Combo, où c'était assez chouette parce que je montrais des vidéos aux enfants d'émotions et d'expressions. Bah, par exemple, typiquement, un chat qui renifle un citron, qui fait cette tête dégoûtée, ou ce genre de choses, et c'était rigolo de voir leur interprétation. Mais des fois, il y a des trucs un peu subtils. En effet, le sourire des chimpanzés, les chimpanzés, ils ont deux types de sourires. Un sourire qui est plutôt positif, un sourire qui est associé à du stress. Et même les adultes tombent dans le panneau, donc c'est intéressant aussi de déconstruire, que dire que même les chimpanzés, qui ont quand même beaucoup de points communs avec nous, eh bien, ils peuvent avoir des comportements qui sont très différents d'une autre. Donc ça permet l'échange, et ouais. Mais sur le livre en lui-même, j'ai pas eu énormément de retours pour l'instant.
Donc nous avons parlé de ta contribution, Agatha. On a parlé des illustrations de Magali. Il y a une troisième personne qui a travaillé sur cet ouvrage, Charlotte Duranton.
Tout à fait.
Est-ce que tu pourrais nous la présenter ?
Eh bien, tout à fait. Eh bien, Charlotte, je la connais depuis longtemps. On a fait le même master d'éthologie. On s'est croisés à des colloques, notamment à Vienne, etc. Et en fait, elle a fini sa thèse 8 mois avant moi. Elle a aussi choisi de quitter le monde académique. Et donc, elle a fait sa thèse donc, sur les chiens domestiques et sur le fait que les chiens se synchronisent avec leurs humains. Et elle a une petite fille. Alors, c'était très pratique. On a pu faire des tests si le livre parlait ou pas. À l'époque, sa fille devait avoir 5 ou 6 ans, qui est à peu près le public cible de notre livre. Et en fait, on est copines, on avait envie de tester. Donc à la base, on s'était unis pour présenter ce projet de guide de l'éthologue qui n'a pas marché. Mais comme on nous a proposé le sujet que d'émotion, on s'est dit que c'était une bonne idée de s'associer. Voilà.
quel conseil vous donneriez à des lectrices ou lecteurs du livre qui voudraient aller un petit peu plus loin dans la découverte justement des émotions chez les animaux ?
Bonne question. Parce que des ressources en français sur les émotions des animaux... Il n'y a pas énormément de choses. Je cherche des références, des sites. Je suis en train d'oublier son nom, mais sur Instagram, j'avais été en contact avec une association belge qui met à disposition notamment des enseignants des ressources pour justement parler de ces questions d'émotions, bien-être des animaux. Mais le nom m'échappe, c'est un peu nul. Au pire, je pourrais vous le donner si vous voulez le mettre en description plus tard. Parce qu'ils ont fait vraiment un dossier très très complet, de genre 100 pages, avec des vidéos, des podcasts, plein de choses sur cette question-là.
Bah, vous donc, nous enverrez le contact et puis
voilà, on va
fera
faire
suivre.
Comme ça.
Alors le livre met en évidence qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont doués de sensibilité. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la prise en compte de la sensibilité des animaux dans nos sociétés ? Voilà.
Eh bien, c'est une large question. Je trouve que ça va dans le bon sens, même si on aimerait toujours que ça aille un peu plus vite. Mais là, par exemple, il y a 3 mois, il y a eu la déclaration de New York qui inclut des nouveaux animaux dans ce qu'on appelle la sentience, qui est un terme qui inclut le fait de vivre des expériences subjectives. Donc c'est à la fois ressentir la douleur, mais c'est aussi ressentir des émotions, ressentir des sensations, comme avoir faim, etc. etc. Et si je dis pas de bêtises, on a inclus par exemple tous les animaux type décapodes, les homards, les crevettes, il y a aussi les céphalopodes, les pieuvres, les seiches, etc. et les insectes, qui pendant très longtemps étaient mis de côté parce qu'il y a des expériences récentes qui ont montré que notamment des mouches drosophiles validaient ces différents critères de sentience. Et jusqu'à présent, dans l'expérimentation animale, alors moi j'étais éthologue, donc le but bien sûr c'est pas de torturer les animaux, mais il y a des expériences qui sont beaucoup plus axées sur la physiologie, donc comprendre comment fonctionne le corps des animaux, où il y a des choses beaucoup plus invasives. Et j'ose espérer qu'avec cette nouvelle classification, eh bien, ces animaux-là seront davantage protégés par le droit et qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi avec eux. Donc moi je trouve que c'est chouette, c'est juste que je ne me rends pas trop compte à quel point ça va toucher le grand public. À quel point est-ce que juste les gens qui bossent avec des animaux sont au courant que ces choses-là évoluent, ou si le grand public est également au courant. J'aimerais bien que l'information circule et que tout le monde le sache, mais ça prend un peu de temps.
Et tu y contribues, ça sera l'objet de ma prochaine question, puisque donc tu es autrice, scientifique, mais tu es aussi une consoeur de la radiophonie.
Complètement.
Puisque tu as sur Radio Campus Toulouse une émission qui s'appelle Le Nid de Pie.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en parler de cette émission et comment peut-on écouter ce que tu as produit déjà ?
Eh bien, alors l'émission, alors elle est officiellement arrêtée pour l'instant. J'ai fait 60 épisodes, donc sur 5 saisons. Et en fait, à Campus FM, tous les ans, il y a possibilité de proposer des nouveaux programmes. Donc quand je suis arrivée à Toulouse et que je ne connaissais pas grand monde, je suis allée toquer à la porte. Je suis allée voir Thomas Delafosse et je lui ai dit « Bonjour, moi j'aimerais faire une émission sur les animaux ». Il m'a dit « Ok, carte blanche, je te laisse un créneau de 30 minutes ». Au départ, c'était toutes les deux semaines, parce que j'étais jeune et pleine de fougue. Et après, c'est passé à un par mois. Et ensuite, l'émission est passée de 30 minutes à une heure, parce que je suis très bavarde, comme la pie qui est mon logo. Et ce que j'avais envie de faire avec cette émission, c'était, déjà je me suis fait plaisir parce que c'était aussi un prétexte pour inviter des gens avec qui j'avais envie de discuter et de parler de plein de questions intéressantes. À Toulouse, il y a un très gros pôle de recherche à l'Université de Toulouse, donc ça m'a permis de rencontrer des chercheurs, des chercheuses, mais aussi des gens qui ont d'autres points de vue sur l'animal. J'étais très fière et très impressionnée, d'ailleurs je déteste réécouter cette émission parce qu'on sent le stress dans ma voix. Par exemple, j'ai interviewé François Delarosière, le monsieur qui a créé les machines. Parce qu'à Toulouse, donc surtout à Nantes, il y a l'éléphant mécanique en bois, etc. Mais maintenant à Toulouse, il y a la halle de la machine où il y a Astérion, un minotaure de plus de 4 mètres de haut. Et je trouvais ça super intéressant de voir son aspect aussi et sa vision des animaux, lui en tant que sa démarche artistique. J'ai interviewé une bergère, j'ai interviewé le taxidermiste du muséum de Toulouse, j'ai interviewé un réalisateur de dessins animés, un réalisateur de films documentaires. L'idée, c'était vraiment de présenter un panel très large de la vision qu'on pouvait avoir de l'animal, d'un point de vue scientifique ou artistique. Et c'était super. C'était 60 super émissions. On a pu aborder plein de sujets. Et tout est en ligne. Donc aussi bien
ça allait être ma question. Oui.
Tout à fait. Tout est disponible gratuit en ligne, soit sur le site de Campus FM, donc qui est le nom officiel de Radio Campus Toulouse, soit sur mon site internet qui s'appelle lenidepie.com.
Très bien. Et pour terminer, des projets en cours ?
Ah, toujours. toujours. En ce moment, je suis en train de finaliser la quatrième de couverture, la maquette pour un livre qui va sortir en septembre, qui est à destination du grand public, donc plutôt adulte, qui va s'appeler L'éthologie presque facile, et qui est un petit livre d'une centaine de pages pour initier à l'éthologie tout le monde. Ça sort chez Delachaux et Niestlé à la rentrée. Voilà.
Très bien. Eh bien, on se tiendra au courant.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Agatha Liévin-Bazin. Dominique Mémy, on va se tourner vers vous. Donc, vous êtes l'autrice, pour rappeler, du livre Le Gang d'Arlette, illustré par Anna Griot et publié chez Dadoclem. Pour commencer, avant de parler du Gang d'Arlette, petite question. Alors, Gang d'Arlette, Arlette, c'est une cocotte très engagée, donc,
oui.
Qui est l'origine du livre Le Gang d'Arlette. Mais avant de parler de notre petite Arlette, pouvez-vous nous parler de votre parcours d'autrice ?
Eh bien, je ne viens pas du tout du monde scientifique comme Agatha. Je viens des lettres modernes. Et j'ai d'abord publié en littérature générale et ensuite en littérature jeunesse. J'ai débuté en littérature jeunesse par Les Contes du Potager, parce que ce qui m'intéressait véritablement, c'était de parler de la nature aux enfants. Et moi, je viens du Nil, je viens de la Corse, et je suis aussi issue d'un milieu paysan, puisque mon père était berger. Donc j'ai un très 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 proche de la nature. Je suis très proche de la nature. D'ailleurs, quand un livre me résiste, je vais me promener. Donc voilà, j'ai fait des études de lettres, j'ai travaillé un temps dans l'aviation. Ensuite, j'enseigne en prépa design. J'ai créé un cours que je me suis amusée vraiment à inventer, c'est-à-dire que c'est autour d'écrire l'objet, de l'écriture autour de l'objet, pour permettre aux étudiants de parler. En général, ce sont de très très bons dessinateurs, mais ils ne savent pas spécialement raconter une histoire autour de leur objet, avoir des références autour de l'objet. Et donc voilà, j'ai construit un cours et j'enseigne dans cette prépa. Ensuite, j'anime énormément d'ateliers d'écriture, aussi bien en maison de retraite qu'en médiathèque. Donc j'ai vraiment les deux âges opposés. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est, voilà. Et j'ai créé un festival de littérature dans les vignes, où je mêle à la fois la découverte des vins locaux, des vins insulaires, aux auteurs. Et j'avais d'abord débuté avec des auteurs de littérature générale, et là j'ai ouvert à la littérature jeunesse, puisque j'ai quand même plusieurs albums jeunesse, et que pour moi, cette catégorisation en fait de littérature jeunesse, littérature générale, c'est pratique pour voilà, dans les commerces, mais pour moi ça n'a pas de sens. Parce que les auteurs, eh bien, ils s'intéressent à toute la littérature, comme pourquoi un auteur de polar ne pourrait pas écrire des bandes dessinées, etc. On n'est pas du tout, nous, catégorisés, vous voyez. Donc, alors, c'est pour ça que ce festival, maintenant, il est à la fois littérature, il est à la fois, j'invite des vigneronnes, j'invite des sommeliers, j'invite des auteurs. Et voilà, comme je pourrais très bien inviter Agatha, qui m'a très très bien parlé, qui m'a dit que ça m'a beaucoup titillé, ces histoires d'animaux. Voilà. Et j'invite des gens que j'aime, des gens que je rencontre, et qui ont vraiment des choses, voilà, des choses très intéressantes à dire. Parce que derrière les livres, alors évidemment, je suis une grande lectrice, mais derrière les livres, il y a des personnes, et il y a des personnes en général merveilleuses qui écrivent. Et sont toujours de très belles rencontres.
Donc dans ce livre, Le Gang d'Arlette, l'héroïne c'est Arlette, une poule très engagée. Moi je crois que si je résume l'histoire de ce livre, j'ai trop en dévoilé, je vais tout divulgâcher. Comment vous présentez l'histoire du Gang d'Arlette en donnant envie d'en lire? Quel est le propos de ce livre?
Alors, je vais vous parler déjà de la genèse de ce livre.
Oui, volontiers.
Si vous voulez bien. J'avais lu, j'aime un auteur américain qui s'appelle Jonathan Safran Foer. En fait, il y a deux temps pour ce livre. En fait, il est né de deux moments. De la lecture de ce livre qui s'appelle « Pourquoi manger des animaux ?», qui est un livre effrayant. Et vraiment, la lecture de ce livre, Jonathan Safran Foer a fait lui-même cette enquête. Il est rentré clandestinement dans des élevages aviaires. Et ce qu'il raconte, c'est abominable. C'est-à-dire, on n'imagine pas comment des êtres humains peuvent traiter d'autres êtres vivants de cette façon-là. Alors, je ne vais pas effrayer non plus les auditeurs, mais ce sont des bains d'antibiotiques où flottent les poules, les poussins, bon, bref. Donc, à la suite de ce livre, c'était, je peux vous dire, je peux le dater, c'était en 2011. J'ai dit non, je ne vais plus pouvoir manger une poule de ma vie, un poulet de ma vie. Je mangeais des poulets, etc. Et il y a un deuxième temps, on a débarqué avec mon mari en Italie dans un agritourisme vegan. Et moi, à l'époque, vegan, végétarien, pour moi, c'était exactement la même chose. Je ne faisais pas du tout de différence, je vais être sincère, hein. Et on débarque dans cet agritourisme, et là, on avait fait un long voyage, j'avais un mal de crâne, pas possible. Et la première personne que je rencontre, je lui dis, vous auriez pas un navette, un paracétamol, quelque chose, voilà. Et la dame me dit, ah non, 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 surtout pas, il faut vous faire une tisane de mélisse. Et là, je me dis, oh là là, on est tombé chez les dingues. Comment on va faire? On va passer 10 jours là, ça va être épouvantable. Et on s'est dit, bon, on reste une nuit, puis demain, on prend nos bagages, on s'en va. Et en fait, on a passé 10 jours merveilleux. On a super bien mangé. On a mangé des... Je n'imaginais pas qu'on pouvait faire autant de bons repas qu'avec des légumes. Vous voyez. Alors, je les faisais mourir de rire parce que je disais, non, mais moi, je suis née dans le fromage. Vous voyez, je suis fille de berger. Comment je peux me... Et en fait, la semaine a été fabuleuse. On a rencontré aussi des personnes exceptionnelles. Des personnes qui venaient, en fait, au véganisme pour plusieurs raisons. À la fois pour des raisons médicales, certains. Certains pour des raisons aussi, je dirais, familiales, ou parce que je me souviens d'un couple qui avait deux chiens et qui disait, ben moi, depuis que nous avons ces chiens, quand je regarde mon chien, je me dis, c'est pas possible, je peux pas manger. Et en fait, on a passé une semaine extraordinaire. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, moi, chez les véganes, c'est qu'ils boivent quand même du vin. Et ça, c'est formidable. Voilà. Et de fil en aiguille... J'ai parlé à mon éditrice Dado Clem qui me suit sur plusieurs albums, et ce qui m'avait intéressé au départ, à dire vrai, c'était la maltraitance des chiens de chasse, parce que chez nous il y a beaucoup de chiens de chasse, et j'avais constaté que dans les villages les chiens de chasse ils étaient très très maigres, mais vraiment maigres à faire peur. J'avais posé la question et en fait on me disait, ben oui, ben on les affame parce que comme ça quand on les lâche pour la battue, eh bien ils vont vraiment courser le sanglier. Oh, j'ai trouvé ça abominable. Je dis, mais comment on peut se dire aimer son chien et le traiter de telle façon? Et j'en ai parlé à l'éditrice et puis j'ai dit, puis j'ai aussi lu ce livre, et puis elle me dit, eh ben, banco Dominique, vas-y, propose-moi quelque chose. Et je me suis beaucoup amusée avec l'idée de cette cocotte libre qui finalement prend un scooter, mange du pop-corn à l'ail, des guimauves aux asticots. Et je me suis dit, eh bien, je vais essayer de parler de cette maltraitance, mais de façon ludique, de façon de ne pas effrayer les enfants, mais quand même d'en dire quelque chose de cette maltraitance. Et de permettre aux enfants finalement de se renseigner, d'avoir accès à cette information. Mais c'est aussi c'est positif parce que voilà, je peux pas tout raconter, mais les animaux vont quand même se révolter. Il y a des choses.
Alors, j'aurais la même question pour Agatha. C'est vous vous adressez aux enfants. Est-ce que vous avez pu justement avoir un retour d'enfants, quelle réaction ils ont par rapport à ce livre et par rapport à ce que fait la cocotte Arlette?
Alors moi j'ai eu pas mal de retours parce que j'ai fait du coup beaucoup d'interventions en médiathèque ou dans les salons, et alors les enfants adorent parce que justement c'est très joyeux, même le dessin est joyeux, c'est-à-dire que le dessin, c'est Anna Griot qui est l'illustratrice, qui a vraiment une touche de couleur très vive. Et donc, ça permet aussi aux enfants d'aborder la question de façon joyeuse. Et moi, ce que je leur... Je commence toujours mon atelier en leur parlant de la première loi sur les animaux. Et j'ai vu d'ailleurs qu'ici, il y avait l'avenue Gramont. Je pense qu'elle est liée au général Gramont. Alors, le général Gramont, c'est le général qui a proposé la première loi... sur les animaux qui concernaient les chevaux, parce qu'en fait ce général, donc, qui était issu de l'armée, avait constaté que à l'époque on utilisait évidemment les chevaux en temps de guerre, avait constaté qu'une fois la guerre passée, on abandonnait ces chevaux et ils n'étaient plus alimentés, ils étaient vraiment laissés à l'abandon. Et donc cet homme qui avait eu un lien particulier avec son cheval a décidé qu'il fallait soutenir et aider, venir en aide à ses chevaux. Et donc, il a créé cette loi pour que ses chevaux ne soient pas abandonnés. Et donc, pour que ses chevaux puissent être nourris, bien traités, etc. Et je commence toujours par cette loi. Et après, on en arrive à inventer des lois autour, voilà, des animaux, des poules. Et le retour donc d'Arlette, il pose des tas de questions, mais c'est toujours, en fait, c'est très joyeux. Et souvent, ils ne savent pas en fait que les poules sont aussi maltraitées, ça c'est sûr. En général, c'est une ignorance, parce que voilà. Et ils disent, ah oui, mais le poulet, c'est quand même bon, le poulet avec les frites et tout. Alors je leur explique, voilà, mais de façon évidemment très douce et très apaisée. Mais voilà, au moins ils ont accès. Et après, moi je suis pas une fanatique, c'est-à-dire que je donne l'information et ensuite c'est aux enfants à se faire voilà, leur propre idée et à avancer aussi. C'est ce qui est important, c'est aussi de réfléchir autour de la question du bien-être animal. Mais je pense qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont de plus en plus attentifs parce que les parents, ils sont de plus en plus attentifs. Donc pour l'instant, j'ai de bons retours.
Ça marche. Concernant vos autres livres, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de parler de l'exploitation des animaux dans vos autres ouvrages ?
Eh bien non, c'est le premier. Auparavant, j'ai tourné beaucoup autour du potager. Mmh. Voilà. Et là, je réfléchis aussi à autre chose parce qu'il y a de très belles choses qui se font en ville, mais je ne dirai rien. Et non, c'est le tout premier. L'idée, c'est de poursuivre avec plusieurs animaux maltraités. Alors ça, c'est l'éditrice. Je fais un appel. moi, j'aimerais parler des chiens de chasse parce que vraiment, c'est terrible. Et puis parce qu'aussi je suis un peu en colère parce qu'il y a des lois autour de la chasse qui sont sorties, alors je peux pas, mais qui ont permis vraiment d'alléger des contraintes faites aux chasseurs, qui sont des lois récentes sur des animaux. On en parlait avec Agatha, sur des oiseaux, sur les ortolans notamment, et ça m'a un peu choquée, donc j'aimerais bien poursuivre un peu.
Oui, et d'ailleurs dans le gang d'Arlette, c'est l'élément déclencheur, c'est la rencontre du chien Pito avec
Exactement.
Un chien de chasse. Et cet événement va mobiliser donc le gang d'Arlette pour libérer des animaux exploités. Mais en l'occurrence, ce chien de chasse, c'est évoqué à la fin du livre qu'il n'a pas été oublié et que le gang d'Arlette va venir le secourir. Mais en effet, c'est comme un appel à une suite. Moi,
oui.
J'aurais envie de voir la suite
merci.
Du gang d'Arlette.
Dado Clem.
Et parce qu'en effet, donc, c'est marrant d'ailleurs cette rencontre. C'est pas marrant, mais c'est significatif du chien Pito, un peu anthropomorphisé,
oui.
Qui est habillé,
oui.
Qui est
oui.
Coquet d'ailleurs,
oui.
Et qui rencontre un chien de chasse à cour, donc avec un collier tout maigre, tout chétif, qui appelle à l'aide. En effet, ça évoque, ça suscite la curiosité sur cette question-là des chiens de chasse, donc qui ne sont pas des chiens, des animaux exploités pour leur production, si on
non,
peut dire,
exact.
Mais qui sont exploités d'une autre manière, donc pour un loisir en l'occurrence. Mm-hmm. Et voilà, donc on sent votre sensibilité pour cette question-là, qui mériterait, je pense, en effet, d'être décrite ou d'être explicitée dans un autre ouvrage, peut-être.
Oui. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas, j'espère. Parce que chez nous, il y a beaucoup de chasse aux sangliers. Et donc, beaucoup de chasseurs, vraiment, affament leurs chiens. C'est général. Hein, Et il y a aussi la question des sangliers qui sont de plus en plus, qui arrivent de plus en plus dans les villes. Moi, je croise régulièrement des sangliers, les marcassins, qui traversent la route quand je rentre chez moi. Et je suis en ville, hein, je suis tout près de la ville. Et donc, je sais qu'il y a eu des chasses aussi aux sangliers pour éradiquer. Et moi, ça me choquait beaucoup parce que je disais non, mais vous doutez bien que si les sangliers viennent en ville, c'est parce qu'il y a bien une raison. C'est que nous investissons leur territoire. Et à un moment donné, ce territoire, pourquoi nous aurions tout le territoire ? Voilà, c'est la question. Et là, j'en parlais avec Agatha aussi sur le parti animaliste. Non, t'es peut-être plus optimiste que moi, mais moi je disais ce parti animaliste n'a fait, bon, il existe, c'est vrai, aujourd'hui, mais il a fait 2%, c'est pas grand chose.
On entend plus parler qu'il y a 10 ans, mais il y a encore du chemin à parcourir.
Il y a beaucoup de chemin, voilà.
Je vais revenir sur le gang d'Arlette. Effectivement, oui. Donc, dans le gang d'Arlette, vous parlez effectivement d'exploitation animale. On sait que l'exploitation, c'est du fait des humains. Et dans le livre, les humains sont cités, mais pas représentés. Est-ce que vous pouvez expliciter ce choix?
Alors, ça, c'est plutôt le choix aussi de l'éditrice. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y ait un contraste entre des animaux qui sont libres, puisqu'ils existent, et des animaux exploités. Et que finalement, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que cette poule, qui est... moi, j'ai un ami plasticien qui a des poules dans son terrain, des poules magnifiques qui se promènent. Voilà, c'était pour vraiment dire... Ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a des poules qui vivent en liberté, des poules qui sont soit dans un grand poulailler, etc., mais des poules qui aussi vivent en liberté. Et par contraste, c'est la même espèce, c'est le même animal, et qui est traité différemment. Donc c'était aussi ce parti pris-là. Donc de ne pas faire intervenir des humains, c'est vrai. Je peux y penser pour la prochaine fois. Avec le chien de chasse, ça va être fatal. Ça va être fatal, oui.
Est-ce que vous pouvez dire quelques mots, vous en avez parlé un petit peu, d'Adoclem, cette maison d'édition qui vous suit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette maison d'édition?
Oui, eh bien, d'Adoclem, c'est une maison d'édition qui est basée à Bordeaux. D'abord à Paris, maintenant à Bordeaux. Et c'est une maison d'édition qui est spécialisée en littérature jeunesse, uniquement en littérature jeunesse. Donc plusieurs ouvrages. Moi, elle me suit depuis le premier ouvrage, depuis Les Contes du Potager. Elle s'intéresse aussi, le dernier ouvrage, c'est un ouvrage sur Satie, sur le musicien. Et voilà, c'est une éditrice, c'est une maison indépendante. Voilà, qui essaie évidemment de se battre aussi face aux gros groupes, hein, parce qu'on est aujourd'hui, c'est très difficile, hein, autant pour les auteurs que pour les éditeurs, parce qu'effectivement il y a des regroupements, et c'est une maison qui défend ses auteurs, moi je suis très heureuse dans cette maison, voilà.
Ça se sent. Eh bien, merci beaucoup Dominique Mémy, merci beaucoup Agatha Liévin-Bazin. Est-ce qu'il y avait éventuellement des questions dans le public,
dans l'auditoire?
Non. Eh bien, merci à tous, merci à vous encore.
Merci beaucoup, merci.
Et puis on peut vous retrouver effectivement pour les dédicaces un petit peu plus loin, et puis vous êtes là toute la journée ou...
Toute la journée, oui.
Très bien.
Merci.
Et puis à 14h évidemment, la remise du prix Maya.